C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Vendredi, c'est la journée des rapports des commissaires et c'est Luc qui amorce la discussion.
Alors, les funérailles et la chapelle ardente pour Mulroney. Mulroney, on a beaucoup dit que on a pas tout dit sur lui, bien entendu. C'est le temps de dire ce qu'il a fait de bien. Et puis, ce qu'il a fait de bien, on l'a résumé à plusieurs choses, dont son engagement contre l'apartheid. Et je parlais avec Luc Lavoie qui me racontait que la pression qu'il a faite sur Reagan et sur Margaret Thatcher, il l'a fait de façon assez dure parce que les deux voulaient rien entendre. C'était une cause qui ne les intéressait pas, c'était loin, ils ne voulaient rien savoir, ils ne voyaient pas de gain à engager un boycott international contre l'Afrique du Sud. Et il s'est fâché très fort contre, ça c'est une histoire connue, il s'est fâché très fort contre Margaret Thatcher. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il restait ami avec elle, ainsi qu'avec Reagan. Et avec Reagan, une autre chose qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'est aussi fâché très fort contre Reagan à l'époque où il y a un envahissement du Nicaragua. Alors, c'est un gars qui avait... puis là, après ça, le Canada a accepté les réfugiés du Nicaragua qui s'étaient réfugiés notamment au Salvador. Mais c'est un gars qui était capable de rester en lien avec tout le monde, mais de leur dire les quatre vérités dans les yeux.
Et une de ses grandes qualités, Luc.
Oui,
pas,
c'est fou, hein?
Oui, tout à fait.
Moi, ça me surprend. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Les pluies acides aussi, on oublie que les pluies acides, ben, c'est beaucoup... un effet de déforestation sur nos érables, mais ça venait du bassin des Grands Lacs, surtout de tout le belt qu'on appelle d'industrie autour de Détroit. Il a réussi à faire changer les normes de pollution pour la production de soufre, notamment, et ça a sauvé nos forêts. Donc, un gars qui était capable de faire pression. Aussi, il faut se rappeler que la TPS, par exemple, qui était un remplacement de la taxe manufacturière. La taxe manufacturière, c'est une taxe qu'on produisait à la production. Donc, quand tu produisais un sofa, bien, il était taxé à la sortie de l'usine et non pas à sa consommation. Puis après, on a changé ça, ce qui était une excellente chose parce que tu taxais plus ce que tu exportais, mais tu taxais ce que tu importais. Et donc, tu taxais à la consommation. Sauf que passer une taxe comme ça à un parti conservateur puis à l'ouest du pays qui voulait ardien savoir, ça prenait des épaules. Ça prenait des épaules et il en a fait preuve.
Est-ce que vous avez vu l'énergie et les sourires affichés par les membres de sa famille en chapelle ardente? L'énergie que ça prend là, pour Mila, ses enfants, tous les membres de la famille, d'accueillir le public, les dignitaires, je suis renversée. Renversée.
Oui, des heures et des heures debout, là.
Exactement.
C'est quelque chose.
Moi, je suis passé devant la basilique hier soir. Écoute, je pense qu'il faisait moins 100 millions de degrés parce qu'il y avait un vent froid, glacial. Évidemment, il n'y avait personne dans la file d'attente. C'était un peu... c'était triste un peu que ça tombe cette journée-là. Tu sais, mais bon, en tout cas, eux, ils ont fait leur travail. Je veux parler de la décision du ministère de l'Environnement d'interdire les fonctionnaires qui habitent à Rouyn-Noranda de s'impliquer dans le dossier de la fonderie Horn parce que...
Et que je suis étonné de t'entendre sur ce dossier.
Oui,
ben d'ailleurs. Et que je suis étonné.
Mais d'ailleurs, Nathalie, je veux parler d'environnement pour mes autres sujets aussi. Alors, donc, c'est amusant parce que, bon, ce qu'ils disent, c'est comme il y a un recours collectif qui concerne tous les habitants de la ville et comme les inspecteurs de l'environnement habitent dans la ville, ils pourraient être bénéficiés d'un recours collectif. Donc, ils sont exclus de tout travail qu'ils pourraient faire sur la fonderie Horn. Mais c'est pas demain matin que tu peux prendre quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur le dossier, puis tu dis, bon, ben voici comment tu vas mesurer et où et comment tu vas mesurer les possibles rejets de l'usine. Là. Non, ça prend des mois et des mois et des mois de formation avant d'arriver là, puis si c'est possible même. Donc, il y a un impact. Mais ce qui est amusant, c'est que le ministère qui propose ça, qui dit, ah, oh, il y a un petit risque de conflit d'intérêts, fait que là, on va vous exclure du dossier, c'est le même ministère qui a demandé à l'usine de s'auto-réglementer et de s'auto-vérifier pendant des décennies. Que c'était la fonderie Horn qui devait mesurer, par exemple, sa consommation d'eau ou ses rejets toxiques. C'est incroyable, ça, quand même, non?
Parce que là, il n'y avait pas de conflit d'intérêt. La décision du ministère de l'Environnement est inusitée, mais là, il faut voir si le potentiel de conflit d'intérêt, il est réel. Moi, je crois qu'il est réel, le potentiel de conflit d'intérêt, non?
Oui, mais il était tellement, tellement, tellement réel quand on a demandé à toutes les compagnies au Québec de mesurer leur propre consommation d'eau sans jamais vérifier. Fait que le ministère de l'Environnement, quand il est pris dans une situation où il voit un conflit d'intérêt possible pour un fonctionnaire, « Oh, mes vieux, Mais quand c'est un conflit d'intérêts gigantesque d'entreprise, ça, ben, ça laisse passer. C'est le ministère de soutien à l'économie et au développement régional au Québec. C'est pas un ministère de l'Environnement. Puis ça, moi, je travaillerais au ministère de l'Environnement, puis c'est d'ailleurs le cas, là. Les gens, ils doivent regarder entre leurs chaussures en se disant « On a-tu hâte que quelqu'un nous redonne nos lettres de noblesse? »
Bien d'ailleurs, sachez qu'il y a énormément... Bien, en tout cas, c'est ce qu'on décode. Il y a énormément de frustration. Il semble y avoir énormément de frustration de la part de certains fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Quand tu lis les articles du Devoir, là, tu dis clairement qu'il y a des fonctionnaires qui se confient sous le sceau de la confidentialité et de l'anonymat. Là. Alors, c'est ce qui se passe hein, quand il y a des fonctionnaires qui sont frustrés de certaines décisions.
Voilà. La fin de la crevette de Matane. La crevette de Matane, à ma grande surprise, j'apprends que l'usine, elle était possession du Groenland, donc du gouvernement du Danemark à 100%.
Ouais. Pardon? Du Danemark, c'est ça.
Oui. Et que deux tiers des employés étaient des travailleurs temporaires, immigrants temporaires, non reçus, quoi. Et moi, ça m'oblige à réfléchir sur le développement régional à nouveau, parce que moi, j'ai tout le temps mangé de la crevette de Matane quasiment comme si j'étais un phoque. Je veux dire, je prends.
T'aimes la crevette de Matane. Hein?
C'est la meilleure au monde. C'est la meilleure
la
au monde.
Crevette. Ça on va taper goût. Notre petite crevette.
Oui, oui, c'est bon. Mais l'affaire, c'est que j'avais l'impression en même temps de faire une action qui permettait de développer une région, etc. Mais je mets ça entre guillemets maintenant, dorénavant, entre guillemets. C'est correct qu'on fasse venir des travailleurs. Il y en a en agriculture, il y en a dans tous les domaines. Puis c'est correct qu'il y a des entreprises qui se vendent puis qui s'achètent. Mais ça me désole de voir que quelque chose d'aussi significatif pour une région qu'une usine puis de traitement, pas juste de la crevette, d'ailleurs du homard, etc. Puis des pêcheurs, la ville ne soit pas capable de les retenir. Comment ça se fait qu'on est une entreprise étrangère, des travailleurs étrangers, le développement régional là-dedans, il commence à être fin, c'est plus évident. Ce n'est plus évident que lorsque tu fais un investissement quelque part, que tu soutiens un investissement quelque part, que tu vas soutenir la région, et parce que les gens partent. Et ça, je trouve qu'il va falloir revoir la façon dont on aide en disant oui, mais comment ça se fait que les gens ne restent pas? Puis qu'est-ce qu'on a besoin pour que les gens restent? C'est ça la question.
Mais c'est vrai que c'est désolant, mais on est nombreux à avoir appris que l'usine était de propriété étrangère.
Ouais. Mais la ressource se fait plus rare aussi.
D'une part.
Tu as une série de facteurs qui font qu'à un moment donné, plus difficile.
Oui.
Dernier point. Avant-dernier point, parce que je vais en faire je vais passer le dernier tout de suite. Saviez-vous ça que les mousses de petites capsules de savon qu'on met dans notre lave-vaisselle, il faut essayer de plus les prendre. Il faudrait essayer de mettre de la poudre direct. Ouais, parce que c'est fait avec un produit qui n'est pas du plastique, qui se dissout, mais qui devient un collecteur de polluants. New York vient de l'empêcher parce que la rivière Hudson a énormément de pollution liée à ça. Ils l'ont mesuré avant-hier, puis c'est énorme. Donc,
voyons, il y a juste ça sur le marché.
La
poudre ça se vend en chaudière chez Costco, c'est ça?
Moi, j'ai ma grosse chaudière de capsules autour du lavabo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais la passer, puis après ça, je vais revenir à la poudre si j'en trouve. Rio Tinto, Alcan, Jonquière, là, le gros dossier de Radio-Canada, extraordinaire, très, très élaboré, beaucoup. Bon, une entreprise qui est passée maître dans l'art de reporter, relativiser, camoufler, etc. Ce qui m'a surpris dans tout ça, bon, on parle de l'Amazonie, on parle des crassiers, on parle des dépotoirs, on parle de l'eau. L'entreprise capable de dire, ben oui, je vais réinvestir si vous me donnez de l'argent, puis après, les réinvestissements se font, mais 40 ans plus tard, ou ne se font qu'en partie, ou je vais dépolluer, mais il y a juste un tout petit bout du lac qui est dépollué, etc., etc. Mais ce qui m'a surpris le plus dans tout ça, c'est le crassier, donc le dépotoir de Jonquière, il est rendu trop petit, puis là, on va l'agrandir. Et où est-ce qu'on veut l'agrandir? Dans le boisé. Il y a un boisé qui s'appelle où les gens font leur sport, où les gens font du plein air juste à côté. Et ils ont proposé de développer ça là. Comment ça? Comment c'est-tu possible de dire en 2024, on va faire un dépotoir dans le boisé, dans la municipalité? Et pourquoi? Parce que c'est le moins cher. C'est le moins cher parce que ça éviterait de transporter les matières ailleurs. Incroyable. Pour moi, je tombe des nues. J'en reviens pas qu'une entreprise multinationale puisse proposer quelque chose comme ça.
La commission Normando-Ferrandaise.
Autour de Nathalie de nous présenter son bilan de la semaine.
Oui, dans la catégorie des bonnes nouvelles, les États-Unis qui exigent officiellement un cessez-le-feu à Gaza, je peux vous dire, les amis, que ça bouge. Au moment où on se parle, Anthony Blinken est avec Netanyahou. L'ONU s'apprête à adopter une résolution dans ce sens. Mais la nouvelle, selon moi, une des nouvelles les plus importantes aujourd'hui, c'est l'agence de presse Reuters, qui l'a publié ce matin à 7h24 précisément. L'armée israélienne qui affirme avoir capturé un nombre important de membres du Hamas. On affirme que les troupes israéliennes ont tué des centaines de combattants dans l'opération, également détenu plus de 500 suspects, dont 358 membres des groupes militants islamistes, Hamas et djihad islamique. Tout ça s'est fait à l'hôpital Al-Shifa. Al-Shifa, donc l'hôpital principal de Gaza. Vous savez, là, l'armée israélienne prétendait que c'est les militants du Hamas et du djihad se cachaient dans les tunnels de l'hôpital. Mais là, il semblerait que ils ont eu raison. Leur affirmation est confirmée ce matin. Et c'est peut-être ça qui va contribuer, selon moi, à l'atteinte d'un cessez-le-feu. Puis il faut rappeler que cette guerre, qui dure déjà depuis 6 mois, touche les civils de manière absolument... les images sont insoutenables. J'entendais ce matin que 60 % des enfants de 5 ans à Gaza souffrent de malnutrition. Alors vivement un cessez-le-feu et qu'il soit mis en œuvre le plus rapidement possible. Dans la catégorie également des bonnes nouvelles, l'entente cette semaine entre la FIC et le gouvernement, après 15 mois et demi de négociations et 8 jours de grève, bien enfin on y est arrivé. Et moi, honnêtement, Paul et Luc, je croyais que après l'entente entre le gouvernement et le Front commun, je me disais, la FIC va perdre le momentum. Hein? Il y a un momentum en négociation. Et là, je me disais, ils vont perdre leur momentum. Ben non. Ils ont obtenu 17,5 % d'augmentation, comme les autres employés du secteur de l'État. On en saura davantage au cours des prochaines semaines. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que les délégués représentants, membres de la FIC, qui représentent les membres, ont approuvé cette entente. Là, ça sera au tour de tous les membres. Ils sont 80 000 à donner leur imprimatur à cette entente entre la FIC et le gouvernement. Alors, bravo, félicitations. Pour moi, ça fait partie de la catégorie des bonnes nouvelles. Autre bonne nouvelle également, puis j'ai tenté cette semaine d'identifier seulement des bonnes nouvelles dans ce que j'ai vu passer dans l'actualité. Le harceleur ne sera plus considéré comme une victime par l'IVAC. Cette histoire dont on l'a beaucoup commenté, l'histoire d'Isabelle Haché, publiée dans la presse sous forme de chronique le 7 mars dernier, qui a ébranlé les colonnes du temple à l'IVAC. Alors, après la publication de son article, l'IVAC a décidé de se rendre à l'évidence et le harceleur qui était considéré comme une victime, qui était indemnisé, ne le sera plus. Mais Isabelle Haché a aussi mis en lumière d'autres réalités. Alors, je me dis, mon Dieu, est-ce que ça va toujours prendre des articles dans la presse, dans les médias? Est-ce que ça va prendre des entrevues à ton micro, Paul, à la radio, pour faire bouger les choses? À un moment donné, tu dis, voyons.
Mais tu sais, je te donne un exemple qui, c'est une bonne nouvelle en soi, mais qui,
oui.
Bon, hier, on reçoit une adolescente ukrainienne qui va bientôt avoir 18 ans, qui est arrivée au Canada dès le début de la guerre, est allée vivre chez sa cousine, elle apprend le français, elle fait des études, elle travaille, mais là, elle n'est pas dans la bonne cause. Parce que, tu sais, c'est une question de statut. Et elle veut rester ici. Elle coûte rien à la société. Si elle étudie, elle va payer comme si elle était une étudiante internationale. Elle n'a pas ce budget-là. Le fait qu'elle soit hier à l'émission, les deux cabinets, le cabinet de Mme Fréchette à l'immigration et de Mme Derry à l'enseignement supérieur, ont dit on s'en occupe. Parce qu'on va trouver... Mais ça n'a pas de sens que ça soit comme ça.
Je suis d'accord.
Il y a un nouveau programme qui a été créé que personne ne connaît trop. Ça a l'air que ça pourrait marcher. Il y en a combien de cas de même? T'sais?
Exact, mais pas la question, est-ce que la jeune fille et sa famille avaient fait des représentations au cabinet?
Oui,
ils ont tout fait ça, là. Mais ça a pris...
Puis c'est Immigration Canada, puis le programme d'études, puis tu sais, t'essaies de te retrouver là-dedans, puis ça, c'est un cas, mais il y en a plein, là. Tu sais, on les accueille avec un visa d'urgence, ils s'installent, ils apprennent le français, puis là, après ça, tu te dis, bien là, finalement, ça se peut qu'on vous retourne. Ben oui, non, tu sais.
C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Enfin, autre bonne nouvelle que j'ai retenue cette semaine, les irréductibles Gaulois de la résidence du Mont-Carmel. Écoute, les personnes âgées qui ont décidé de tenir tête aux propriétaires de la résidence, Henri Zariev, 47 résidents, ils sont absolument extraordinaires. Je vous en parle, j'ai quasiment des frissons, ma foi, parce que je me dis, hey, c'est pas rien, là. Ils n'ont jamais lâché le morceau. Ils ont fini par obtenir gain de cause. Ils ont eu le propriétaire à l'usure. Ils ont fait appel aux tribunaux.
Mais je suis en mode méfiance.
Oui, c'est-à-dire?
Ben, je regardais ce matin ce que Katia Gagnon écrivait, là, qu'il fait des promesses à des locataires puis il ne respecte pas ça trop. Fait que...
Mais on fait quoi? Là? Puis je vous pose la question, Paul et Luc, on fait quoi avec les propriétaires de ce type-là qui sont négligents, qui augmentent les coûts de loyer de 500 $ pour des loyers qui sont insalubres ou des coquerelles, qui se foutent carrément des locataires? On fait quoi avec ces propriétaires-là?
Ben, rien pantoute.
Pose la question.
Rien pantoute.
Ben,
c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Je veux dire, ça fait des décennies que c'est comme ça. Je connaissais un propriétaire dans le coin, moi, qui tous les ans envoyait une augmentation de 50 $ à tout le monde. Et puis, il y avait quelques personnes âgées connaissant pas leurs droits. Puis c'était des logements misérables qui disaient oui, de peur d'être expulsés. Puis il y avait plusieurs qui disaient non, il faut qu'on aille à la régie. Mais lui, c'était sa pratique. Il faisait comme ça à chaque mois. Et la régie n'a jamais considéré que c'était une pratique illégale. Elle a dit, ah ben si vous n'êtes pas content, venez à la régie. Mais c'est pas tout le monde qui va aller au tribunal puis qui va prendre des mois, puis beaucoup de temps, puis doit documenter son dossier. C'est ça notre système. Notre système, c'est qu'on ne on fait que pénaliser après les faits. Alors, il y a plein de gens qui tentent constamment de tricher.
Enfin, puis pour vous faire sourire en terminant, je me disais, comment peut-on faire vivre la sobriété énergétique à notre bon ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon? Bien, j'ai fait le lien entre ce qui est devenu son nouveau mantra, la sobriété énergétique, et un article paru dans le Journal de Montréal où on apprenait que les bains de glace portatifs, la demande des bains de glace portatifs explose. Alors, monsieur Dicien, on devra offrir un bain de glace portatif à monsieur Fitzgibbon pour lui faire vivre, n'est-ce pas, l'expérience des pays du Scandinave, parce que ça remet les idées en place, un petit bain de glace, les amis, hein? Ça remet les idées en place.
Hey, Nathalie, alors... j'ai pas eu le temps parce que tu as enchaîné rapidement de revenir sur l'affaire de l'hôpital Al-Shifa sur Israël. Je voudrais juste dire qu'hier, il y a eu 500 médecins québécois qui ont dit d'accord, là, c'est très possible que des terroristes se soient cachés autour de l'hôpital Al-Shifa. D'ailleurs, les hôpitaux ne sont plus que des hôpitaux. Maintenant, là-bas, se sont rendus des camps de réfugiés.
Mais Luc, c'est pas juste une possibilité, c'est confirmé par Reuters.
C'est-à-dire qu'il y a eu un blackout d'informations total imposé par l'armée israélienne qui, a contrôlé les communications qui se faisaient sur cette opération-là. Je dis que c'est tout à fait possible, même probable, mais ceci étant dit, n'oublions pas qu'Israël a accusé de terroristes des enfants qui lançaient des roches à plusieurs reprises. Alors, ça se peut que oui, il y a eu des vrais terroristes et ça se peut aussi qu'il y a eu des personnes classées dans la catégorie terroriste. Ça, c'est pas impossible non plus. Je ne dis pas, je ne remets pas en cause, je fais juste définir des choses qui ont été reconnues par des organisations, dont Médecins sans frontières, sur les lieux.
Merci à tous les deux, puis on vous souhaite de passer un bon week-end.
C'est 23.